Restons courtois. Marc Hainaut.
Et bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans la deuxième partie de cette émission Restons courtois, animée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles sur les ondes de Radio Courtoisie. Et pour recevoir notre invité, j'avais pensé à la chanson Place des grands hommes de Patrick Bruel. Christine Goguet, bonsoir. Parce que votre livre parle justement des grands hommes et du diable, autrement dit la face sombre de ceux que l'on connaît surtout via la lumière qu'ils ont projetée sur leur siècle et sur leur époque. À l'heure où les réseaux sociaux exhument les zones d'ombre des célébrités et où les statues elles-mêmes deviennent parfois des objets de controverse, la question n'a jamais été aussi actuelle. Donc vous êtes l'auteur de ce livre, Les grands hommes et le diable, aux éditions du Rocher. Donc après avoir exploré dans un précédent ouvrage le rapport des grandes figures historiques au divin, vous vous intéressez cette fois à leur part d'ombre, alors des personnalités très diverses, on parle du philosophe Jean-Jacques Rousseau, du peintre Pablo Picasso, de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir, de François Mitterrand, Gandhi ou encore Victor Hugo. Tous ont laissé une œuvre, une action ou une pensée qui leur ont survécu, mais tous étaient aussi des êtres humains avec leurs contradictions, leurs faiblesses et parfois leurs fautes. C'est donc ce livre est le pendant du premier. Pourquoi vous êtes-vous intéressé déjà à Dieu et au diable, en quelque sorte, Christine Goguet?
Alors, le précédent, c'était le rapport des grands hommes à Dieu, voilà, à la spiritualité au sens large, et plutôt à la partie lumineuse de ces grands hommes, leur éthique, leurs valeurs. Et le second était forcément en résonance. Maintenant, après avoir exploré cette face lumineuse et on va dire élevée de l'homme, et qui de tous ces grands guides qui étaient portés par quelque chose, moi je trouve que c'était intéressant de voir la face cachée des mêmes hommes, pour certains d'ailleurs, puisque je pense qu'on pourrait peut-être prendre les mêmes et les mettre la deuxième série. Bon, enfin, en tous les cas, pour Les grands hommes et le diable, on pourrait avoir une pléiade, je crois. Après, quels sont les grands hommes? Ça, c'est un vrai sujet. On en parlait peut-être en préambule.
On peut dire, c'est vrai que c'est une très bonne question.
Qu'est-ce qu'un grand homme ou une grande femme? Parce qu'il y a aussi des femmes.
Absolument,
hein.
Il y en a Simone de Beauvoir, notamment.
Voilà, il y en a un peu moins, parce que peut-être que les femmes sont plus entières. Je vois des messieurs autour de moi.
Effectivement, il y a Gabrielle Chanel aussi. Attendez, je l'avais oublié.
Il y a de quoi dire, en effet. Écoutez, les grands hommes, enfin, moi, je pense que la définition, c'est quelqu'un qui a marqué largement et durablement son époque, qui a, en tous les cas, fait des prouesses, ou en tous les cas, marqué son époque de manière importante. Ça va de Chanel, effectivement, qui est une immense créatrice, à Rousseau, qui était le philosophe des Lumières, en passant par Picasso, qui est l'immense peintre que l'on connaît. Et c'était intéressant, je trouve, d'aller chercher leur face cachée, la vérité que l'histoire, en tous les cas le récit collectif, le roman national a parfois oublié, ou a préféré effacer, ou mis sous le tapis, en tous les cas. Et quand on va chercher, on trouve. Et là, on trouve des choses qui sont parfois très étonnantes et édifiantes. Pour certains très connus, et puis pour d'autres... un peu moins.
Je vais laisser la parole à mes chroniqueurs pour vous interroger aussi. Mais c'est vrai que l'époque en plus prête un petit peu à cela. Alors on se rappelle tous de cette émission Apostrophe qui opposait notamment Gabriel Matzneff à l'écrivain Denise Bombardier. Et Denise Bombardier donc avait mis en cause Gabriel Matzneff pour ses écrits. Elle avait confié quelques années plus tard qu'on lui avait fortement déconseillé de faire ça en disant tu touches à quelque chose qui est sacré en France, qui est la littérature, et surtout il faut séparer, on va dire, l'œuvre et l'artiste. C'est un débat, c'est amusant parce que ce livre intervient dans un moment où ce débat justement est extrêmement moderne, extrêmement contemporain. Peut-on séparer l'œuvre et l'artiste? Peut-on séparer justement le bien qu'ils ont pu écrire et le mal qu'ils ont pu faire? Vous, en tout cas, vous tranchez pas vraiment cette question, en tout cas, juste vous révélez l'envers du décor, en quelque sorte.
C'est ça. Je pense que c'est le rôle du journaliste, c'est de porter, d'apporter, en tous les cas, la vérité de l'être. En l'occurrence, je crois que cet essai, il est également... à la fois philosophique, à la fois psychologique, parce que quand on rentre dans la nature humaine, dans sa complexité, et la vérité est complexe aussi de chaque personnalité ou de chaque personne, on explore une face que Voilà, chacun en soi. Je ne sais pas, je ne vais pas vous faire une contre-interrogation, mais à un moment donné, on demandera à chacun quelle est sa face obscure, ou plus cachée, ou plus camouflée.
Bah écoutez, mais pas grand-chose comparé à ce que j'ai vu là-dedans. C'est vraiment, on y passe sur les mêmes échelles.
C'est vrai que c'est parfois surprenant, enfin, en tous les cas, assez édifiant. Moi, je n'ai pas voulu porter de jugement. Je pense aussi que, voilà, c'est aujourd'hui une époque qui en juge une autre. On a parlé de Maznev, c'était une autre époque.
Absolument, oui.
Où il y avait une libération sexuelle. On le voit très bien avec Sartre et Beauvoir, qui étaient les pionniers de ça, qui étaient le pionnier de la liberté. Donc, c'est vraiment une époque qui portait ce type de, on va dire, valeurs, entre guillemets, parce que ce sont plutôt des antivaleurs, enfin, en tous les cas, voilà. Et c'est, dans cette époque-là, c'était tout à fait normal, entre guillemets. C'est comme... Quand on voit et quand on étudie des gens comme Gandhi, puisqu'il fait partie du livre, par exemple,
bien sûr.
L'époque était quand même, et j'enlève le quand même, une forme de racisme. Gandhi, il y a des lettres édifiantes qui parlent des populations noires en parlant des êtres, d'êtres grossiers, paresseux, j'en passe, et des pires. Donc, cette dimension-là de l'époque, on doit forcément la resituer. D'ailleurs, l'histoire, c'est quoi? C'est le passé des uns fait le futur des autres. Donc, là, c'est d'actualité, mais ça sera toujours d'actualité, puisque, en fait, c'est la nature humaine. Il y a forcément des failles, des faiblesses, parfois même des très graves forfaitures, et ça, on les découvre ou pas?
Ben, j'ai découvert plein de choses, notamment par exemple sur Neruda. Je ne connaissais pas justement cette face-là de l'artiste. Alors moi,
Neruda, le chantre de l'universalité, je vais y arriver.
Absolument, mais alors moi, il y a une anecdote qui m'a beaucoup marqué, c'est la relation par exemple entre Victor Hugo et Juliette Drouet. Alors, d'un point de vue de la littérature et de l'histoire, tout le monde la connaît. Elle a souvent été présentée comme quelque chose de magnifique, entre guillemets, puisque Juliette Drouet, qui a dédié toute sa vie au grand homme, qui lui est, qu'on a présenté comme éperdument, qu'il l'a aimé, qu'il l'aurait aimé toute sa vie, etc. Et en fait, c'est vrai que votre livre, il rappelle toute la part sombre, en fait, de cette relation, le phénomène d'emprise, de maltraitance. Vous parlez de maltraitance affective. Enfin, et c'est vrai que c'est la même histoire, mais racontée, en fait, avec sous des traits beaucoup plus vrais, tout
Alors,
simplement.
Alors, du point de vue de la femme, là pour
Bien
le
sûr,
coup,
oui.
Parce que si on se met du point de vue de Juliette Drouet, qui a tout abandonné pour se consacrer à son grand homme, aujourd'hui, ça ne le ferait pas, pardon.
On parlerait d'emprise aujourd'hui.
On parlerait d'emprise, de manipulation mentale. Il y a une bigamie de fait,
Absolument.
Voire une polygamie du côté de Victor Hugo, qui était quand même très connue, qui était très fortunée, qui était une vraie rockstar, si je puis dire, de l'époque.
C'était une des premières grandes stars.
Et qui, au fond, profitait un petit peu de cette domination pour asseoir un appétit sexuel assez important et même considérable, où il avait des aventures, des liaisons avec ses servantes, ses gouvernantes, même des servantes et des gouvernantes de Juliette. La maltraitance et la cruauté affective, elle est patente. Bon, lui aussi, il n'a pas eu beaucoup de chance non plus, parce que sa femme était aussi, on le rappelle, le trompait allègrement avec son amie Sainte-Beuve, mais
Absolument.
C'était pas génial non plus.
Ce qui n'a pas aidé à la relation de ces deux hommes, en tout cas.
C'était pas des modèles, ni les uns ni les autres. Mais néanmoins, aujourd'hui, la vraie question, c'est Hugo, aujourd'hui, est-ce qu'on lirait Notre-Dame de Paris, Les Misérables, est-ce qu'on les mettrait sur le piédestal qui est le sien, parce que c'est un génie absolu, ça, on peut pas, personne ne peut le nier, et lui il a quelque chose en plus de nous, hein, ça c'est clair. Est-ce que si aujourd'hui Victor Hugo était dans notre époque, qu'est-ce qui se passerait? C'est la vraie question.
C'est effectivement une des questions qu'on peut se poser. Chers auditeurs, vous êtes bien sur Radio Courtoisie dans l'émission Restons Courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Nous sommes avec la journaliste et auteure Christine Goguet, qui publie Les Grands Hommes et le Diable aux éditions du Rocher. Valentin Gore, vous avez une question pour notre invité.
Oui, madame. Alors justement, vous parliez des femmes. Alors nous qui sommes ici des hommes, on a tendance à les idéaliser, à penser parfois qu'elles ont moins de défauts que nous. Et pourtant, vous montrez, avec les deux exemples que vous avez cités, Simone de Beauvoir Noir et Gabrielle Chanel, qui sont vraiment des femmes de talent. Je pense surtout à Chanel en l'occurrence, moi de l'autre.
Mais
c'est un avis personnel. La femme peut-elle aussi aller vraiment vers le diable? Et quand elle y va, c'est souvent plus carrément que l'homme. Peut-être partagerez-vous ce propos.
Celle qui a mordu la pomme en premier, d'ailleurs, je le rappelle.
Elle a été poursuivie. Mais non, mais bon, des femmes, il y en a forcément. On aurait pu en mettre, j'ai évidemment pensé en mettre d'autres. Il y en a un peu moins quand même, vous le noterez.
Oui.
Il y en a deux sur une quinzaine de portraits, parce qu'il faut rappeler, le livre, c'est des courtes biographies qui sont tout à fait, c'est comme je pose juste un diagnostic, hein, je raconte la vie de manière extrêmement sobre, et chacun y trouvera et jugera ce qu'il a envie de juger ou pas. C'est pas du tout.
Oui, on précise qu'il n'y a pas de jugement.
C'est pas un tribunal. Attention, je le précise, c'est très important.
Vous avez raison.
Chacun va se faire un avis. Et effectivement, quand on voit Simone de Beauvoir, en tant que jeune femme, j'ai lu les mémoires d'une jeune fille rangée. Pour moi, c'était l'apogée du féminisme, l'icône de l'époque. Et je me disais, c'est formidable, voilà. Et quand on approche le personnage Simone de Beauvoir, qui d'ailleurs ne va pas sans le personnage de Sartre, hein, puisque c'est le couple infernal. Là, on parle du diable, mais là, le diable, il s'était associé. Et la manière dont ils ont de voir la liberté sexuelle, par exemple, ça, c'est un des pans, en tous les cas, de leur vie. Il y a une couverture qui est absolument terrible, où Simone de Beauvoir sert de rabatteuse, c'est vraiment la rabatteuse. Elle va chercher des jeunes filles en fleurs dans ses étudiantes, elle les ramène dans le lit de Sartre. C'est quand même, pour quelqu'un qui fait l'apologie du féminisme et qui protège, et soi-disant protège les femmes, c'est quand même... Fais ce que je dis, pas ce que je fais.
En revient au réflexe de la maîtresse de Louis XV qui pour ne pas perdre justement son contrôle sur le roi, servait elle-même de rabatteuse, mais pour s'assurer que les jeunes filles qu'elle lui présenteront ne l'effaceront pas dans l'esprit du roi. Donc en fait, c'est marrant parce que Simone de Beauvoir, elle a plaidé pour le féminisme toute sa vie, alors qu'elle se comportait avec une logique d'ancien régime.
Voilà,
quoi.
Exactement. Sauf que là, elle prêchait pour le féminisme.
Oui, c'est ça.
Alors que la maîtresse du roi, elle prêchait pour elle-même.
C'était une notion encore assez vague à l'époque.
Cela dit, je pense qu'effectivement, Simone de Beauvoir prêchait aussi pour elle-même, parce que c'est quand même un couple qui a évidemment épousé toutes les causes, hein, le communisme, le stalinisme, le maoïsme.
Il y a eu un comportement sous l'occupation assez regrettable, pour le moins. Oui.
Opportuniste, dirons-nous, pour le moins.
Pour le moins, délétère, on va dire. Enfin, Simone de Beauvoir, on rappelle, c'est Radio Vichy.
Bien sûr. Hein,
et Sartre fait donner toutes ses pièces de théâtre devant le public de la collaboration. Voilà, ça c'est...
Très bon retournement.
L'image est un peu particulière pour celui qui veut laisser penser qu'il a été un grand résistant. C'est interpellant.
Alors moi, j'ai appris énormément de choses. Notamment, je ne savais pas qu'André Malraux avait cette part justement sombre d'alcoolisme, de violence aussi. Enfin, on apprend vraiment j'ai presque envie de dire des choses qu'on n'avait pas forcément envie d'apprendre, en fait, sur ces gens qu'on a pu potentiellement admirer, en tout cas idéaliser. Alors, Étienne Darjac nous parlait de Rimbaud, nous parlait Rimbaud il y a peu de temps. On tombe un peu de notre piédestal, quoi. Étienne.
J'ai pas lu votre livre, hein, je précise. Hein. Pour Rimbaud, j'ai pas forcément, enfin, je n'apprends pas en tout cas les différentes phrases qui ont composé sa vie, j'allais dire avant sa carrière politique, pendant et surtout après. Bon, moi, je trouve ça rajoute...
De poète à trafiquant d'armes, ça vous parle, en fait, quelque part.
C'est un peu la carrière dont j'ai rêvé.
Les avocats de Rimbaud disent « Non, mais il était négociant d'armes, hein, et il n'était pas trafiquant. »
Moi, ça me va très bien.
C'était négociant illégal, oui, bon, bah, trafiquant.
Je trouve que c'est ce qui fait tout le charme du personnage, et c'est ce qui, j'allais dire, c'est ce qui rajoute même de l'ampleur à sa carrière poétique, à son... à sa vie qui a été poétique, donc j'ai du mal à y voir. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas très catholique ce que je veux dire, mais J'ai du mal à y voir l'empreinte du diable, en tout cas. En ce qui concerne Arthur Rimbaud, pour Sartre et Beauvoir, je serais beaucoup plus convaincu. Bon,
alors, oui, parce que vous avez un prisme idéologique.
Non, mais on est tous pareils. C'est-à-dire que moi, j'ai une de mes amies qui me dit « Oh là là, non, je pourrais pas lire le chapitre sur Hugo, c'est pas possible. » C'est tout à fait ça.
Ouais, mais non, Rimbaud, voilà. Moi, c'est Rimbaud.
Mais voilà, bon, c'est vrai que ce poète qui tutoie les étoiles, dont la poésie est absolument inouïe, on ne peut pas l'imaginer un instant comme il est grossier, voyou, goujat, trafiquant d'armes, bon, ok, trafiquant d'ivoire aussi.
C'est super.
Après, c'est intéressant parce que je trouve que, et c'est là où on touche à la psychologie de l'être aussi, c'est que chacun d'entre eux, on trouve tout ça dans l'enfance, en fait.
Ouais,
on voit bien qu'ils sont pour beaucoup d'entre eux, en tous les cas, victimes d'une enfance traumatique. Mmh. Moi, je ne veux pas faire de psychologie de café du commerce, mais c'est quand même la réalité. On voit, on parle de Chanel qui a eu, évidemment, sa mère qui meurt très jeune, son père qui l'abandonne, elle se retrouve placée, elle est évidemment désespérée. Et qu'est-ce qui se passe? Elle cherche une revanche à la vie, ça paraît logique. Mmh. On voit pour Rimbaud, c'est pareil. Il a une mère qui est une matrone terrible, il est maltraité. Il passe devant des librairies, il rêve, il se dit c'est là que je vais me sauver, que le livre va me sauver. Son père les a abandonnés aussi, il est parti, bon. Et donc du coup, ils sont très malheureux, ils essayent de faire quelque chose de leur vie. Et je pense que leur génie est issu de cette souffrance quelque part. Mmh. Et leur turpitude également, au fond. C'est-à-dire qu'il y a de la raison, il y a du génie, et puis il y a la pulsion. Et cette pulsion affective, on la retrouve vraiment dans beaucoup d'entre eux. Pétain,
ouais.
Typiquement Pétain, pareil. Il perd, sa mère a 2 ans, son beau-père. Le type est forcément très affecté par tout ça. Il cherche l'armée pour essayer d'avoir une voie pour s'en sortir, de s'en sortir, et d'essayer de faire de sa vie, de prendre la revanche. Mmh. Une revanche, et c'est très clair. Ici, on voit l'ensemble des personnages, on le voit très très bien sur Rousseau. Alors Rousseau, c'est le double visage de Rousseau, psychiatrique. Hein. Rousseau, c'est un cas psychiatrique.
Il abandonne ses enfants.
C'est un vrai cas psychiatrique. Hein. Alors là, je pense que c'est l'égérie du livre.
C'est peut-être le pire,
ouais. Non, c'est peut-être... oui, c'est sûrement parce que, voilà, entre le blanc, le noir... Il y a des nuances de gris dans chacun de ces personnages, évidemment. Hein. Il y a des gens qui sont plus ou moins épouvantables, ou en tous les cas, voilà. Mais Rousseau qui abandonne ses enfants...
Il confie à l'assistance, absolument.
Alors, en fait, c'est bien même pire. Alors, il a un père qui est orfèvre, mais qui maltraite ses enfants en les frappant tout le temps. Il a un frère, lui et son frère, sont frappés dans son enfance, c'est terrible. Il prend des volets tout le temps, des coups de bois et des c'est terrible. Donc lui, quand il arrive, on peut l'imaginer, hein, quand il arrive à la paternité,
il
ne sait pas être père.
Ouais.
Mais ce qui est quand même terrible, c'est que il écrit l'Émile. C'est le philosophe qui révolutionne la pensée sur l'éducation. Donc il est capable de penser cette enfance. Et lui n'est pas capable de mettre en œuvre ou de réparer ses blessures en étant un bon père. Il prend chacun de ses 5 nourrissons, c'est terrifiant, hein, et il va les porter un par un dans un orphelinat qui s'appelle Les Enfants Trouvés, où ils ont 70 à 90% de chance, parce qu'à l'époque, ou plutôt de malchance, de mourir, et on n'aura plus jamais aucune nouvelle des enfants de Rousseau. Et Rousseau, ses amis lui ont proposé de les adopter.
Il n'a pas voulu dire refuser.
Refusé. C'est fou. Ouais. Là, c'est fou.
Valentin Gore.
Question toute simple. Quel est le portrait que vous avez préféré écrire parmi toute cette galerie, s'il y en a un?
Non, mais je trouve que Rousseau, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple parce que les lumières... et c'est vraiment Dr. Jekyll et Mr. Hyde.
Absolument. Mmh.
C'est fait ce que je dis, pas ce que je fais. Mmh. Donc, on peut pardonner entre guillemets, à certains grands hommes. Enfin bon, ici on est sur le pardon effectivement catholique, on va dire. On peut peut-être pardonner à Hugo. Enfin voilà, il y a des choses où il a été tellement porteur de valeurs extraordinaires que... c'était un petit clin d'œil parce qu'il fait partie du précédent livre. Et voilà. Mais il y a de très grands hypocrites. Très grands hypocrites, comme Freud.
Ah voilà, j'allais en parler.
Par exemple, Freud.
Passionnant, ça.
Ou Rousseau, qui professe des choses et qui, ensuite dans leur correspondance privée, dans, ils disent bah non, mais de toute façon la psychanalyse ça marche pas. Et qui, là il y a un problème.
Je peux vous laisser expliciter un petit peu justement pourquoi Sigmund Freud fait partie de ce, de, on va dire de ce, de cet anti-panthéon en quelque sorte.
Ah, enfin, c'est pas.
Y a-t-il besoin d'expliciter ?
On ne sait jamais.
C'est pas un anti-panthéon puisque finalement Rousseau aussi fait face à Voltaire, et d'ailleurs j'aurais pu prendre Voltaire même si j'aime beaucoup Voltaire, mais quand on regarde les époques, l'antisémitisme, et bon, on peut tous les mettre, hein, Chopin, Heidegger, Céline, alors là, on a une galerie de portraits, pour ça je disais, il y a une Pléiade, si vous voulez, vous revenez me voir dans 10 ans.
Oui, c'est ça, ou alors consultez la Pléiade, ils sont tous dedans.
C'est la nature humaine qui fait qu'on est faillible et qu'on a tous, plus ou moins, en tous les cas, Après, il y a aussi cette propagande, ce roman national qu'on crée selon les époques et qui évidemment, à un moment donné, fait que on a considéré que c'était vraiment des grands hommes. Mais peut-être que s'il n'y avait pas eu ces tendances-là de l'époque, comme on parle de Maznev, où là, on parlait de sexualité de l'enfance, ça paraissait logique. C'était aujourd'hui, il ne serait pas des grands hommes, et je pense qu'il ne serait pas apparu, Maznev, ça c'est clair.
Alors, c'est un peu la question que j'avais envie de vous poser aussi, puisqu'on l'a dit en préambule de cet entretien, l'heure est à la déconstruction, au déboulonnage de statues. Est-ce que vous ne craignez pas que ce livre, justement, il abonde un petit peu là-dedans, et que finalement, en soi, cette galerie de portraits, de biographies extrêmement sympathiques à lire, ne participe pas à l'œuvre de déconstruction et de déboulonnage, en quelque sorte, Christine Goyer?
Bah moi, je trouve que c'est plutôt une manière de déconstruire les déconstructeurs, quelque part, hein, parce que c'est remettre l'Église au cœur du village, enfin, en tous les cas, la vérité, telle qu'elle est réellement. Il n'y a qu'une vérité. Cette table, elle est blanche, elle n'est pas noire, elle n'est pas bleue. Je trouve que c'est important d'approcher la vérité de l'être avec toutes ses complexités, ses nuances. L'intelligence, c'est de la nuance. On ne peut pas dire voilà, tout est noir, tout est blanc, tout est comme ci, tout est comme ça. Je trouve, après, à titre personnel, si vous me demandez ce que j'en pense, je trouve qu'il faut garder de la distance.
Ouais.
Distance critique.
Ouais.
Il y a forcément de l'homme dans l'œuvre. Il y a un regard, il y a une sensibilité, il y a forcément.
Et qui transparaît, oui. Ouais.
Voilà. Mais je trouve qu'à un moment donné, l'œuvre, quand elle rencontre le public, elle dépasse l'homme.
Oui. C'est Valentin Gore.
Non, mais c'est intéressant parce qu'effectivement, on se rend compte en vous lisant que vous parliez d'Étienne de Rimbaud, de la figure de ces poètes maudits ou de ces personnages. Finalement, la part d'ombre éclaire souvent plus que la part de lumière pour comprendre ces personnages.
Oui, et puis on voit bien les citations de certains qui éclairent aussi sur l'inconscient, parce que là, on travaille dans l'inconscient.
Avec Freud qui a projeté ses propres problèmes et ses fantasmes pour les universaliser, en quelque sorte.
Oui, pour les rendre crédibles.
Voilà.
Il y a quand même beaucoup de fantasmes. Hein.
Bien sûr.
Il y en a eu un paquet. Hein. Franchement, quand on lit le livre, on est assez édifié. Après, il y en a beaucoup d'autres hein, qui... entre les lignes, on transparaissent dans leur vérité. Le Che, qui est quand même une image collective du révolutionnaire, extraordinaire, médecin, qui va sauver l'ensemble des planètes de l'Amérique du Sud, et puis qui est capable d'avoir des tribunaux révolutionnaires, de tuer ses anciens collègues à bout portant, dire nous fusillerons encore. C'est quand même édifiant, quoi. Enfin, on se dit, il y a un double visage.
Il y a même Pablo Neruda qui est connu pour ses poèmes, ses poèmes sur l'amour et qui se comporte comme un monstre avec les femmes, quoi. En fait,
Neruda. Qui doit être la poésie,
icône communiste,
la délicatesse, qui écrit des lettres d'amour jusqu'au bout à Staline, sans tenir absolument compte de... Enfin, c'est aussi une époque, hein, parce que quand on voit des intellectuels, il y en a beaucoup qui se sont aveuglés et trompés. Enfin, on voit Sartre, par exemple. D'ailleurs, il a écrit un bouquin, justement, là, en parlant d'actes manqués, ou en tous les cas d'inconscient, plaidoyer pour les intellectuels. Oui. Donc ça veut dire quelque chose. Hein. Il a dû peut-être quand même à des moments donnés s'interroger. Hein. Enfin,
il y a eu un très bon essai de Samuel Fitoussi d'ailleurs, pourquoi les intellectuels se trompent, qui était assez intéressant à suivre.
Ah ouais, formidable. Oui, ouais, formidable, je trouvais formidable. Et donc pour revenir sur Neruda, oui, alors Neruda, c'est... Oh, c'est... Bon, je dis Picasso, c'est monstre sacré, monstre tout court, mais Neruda, on a envie de dire c'est monstre tout court, parce que Neruda, bon, Staline, c'est une chose, on peut se tromper, bon, mais derrière, sa vie privée est un contre-exemple total de sa poésie qui est limpide et lumineuse. C'est-à-dire qu'il est marié, il a malheureusement une fille handicapée qui naît hydrocéphale, donc ça c'est un drame dans une vie, évidemment. Mais lui, au lieu de, voilà,
de magnifier,
d'épouser voilà, la cause de sa femme et de sa fille, comme l'a fait un De Gaulle, qui s'est occupé de sa, voilà, de sa fille handicapée jusqu'à sa mort à 20 ans, la petite Anne, qui était un homme et un père extraordinaire. Lui, c'est un père, Pablo Neruda est un père indigne. Il va jeter le bébé avec l'eau du bain. Il va même dire des choses horribles sur sa fille. « Ah, oh, elle a une petite tête de vampire. » Ouais, bon, il l'abandonne. Il abandonne la femme avec, parce que comme ça, c'est très bien. Et il a tant et si bien qu'il n'ira même pas à l'enterrement. C'est quand même... C'est quand même extraordinaire. Et il décrit aussi un abus sexuel qu'il a eu sur une jeune étrangère avec une froideur qui...
Glaçante, oui.
Glaçante.
Oui. C'est Christine Goguet, Les grands hommes et le diable aux éditions du Rocher. On vous invite, chers auditeurs, à découvrir cet ouvrage. Merci d'avoir été avec nous pour évoquer justement ce panthéon, cet anti-panthéon, en tout cas la face sombre des grands hommes. On recommande aussi, bien évidemment, le premier opus, Les grands hommes et Dieu, justement, qui...
C'est plus sympathique.
Oui, qui est plus sympathique à lire. En tout cas, si vous souhaitez déconstruire certaines idoles ou être encore plus certain de la bonne raison que vous aviez à détester des Che Guevara ou des Jean-Paul Sartre, c'est un excellent livre. Merci à vous, Christine Goguet, d'avoir été avec nous. Restez avec nous aussi, chers auditeurs. On revient dans quelques instants après un petit message de votre radio.
Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Restons courtois, Marc Haino.
De retour à l'antenne de Radio Courtoisie dans l'émission Restons courtois, présentée comme tous les jeudis par Valeurs Actuelles. Nous allons accueillir dans quelques minutes l'ancien eurodéputé, ancien député du Front National devenu Rassemblement National, ancien président d'honneur de Reconquête, l'avocat Gilbert Collard, avec qui nous reviendrons notamment sur l'affaire Liana. Mais en attendant, petit sujet, messieurs, en attendant Gilbert Collard, puisque... Petit comeback sur Radio Courtoisie. Petite tentative de retour. François Bayrou, ex-premier ministre, désormais ex-maire de Pau, revient avec un livre où il explique pourquoi, selon lui, il faut se réveiller parce que la France serait ruinée. Et il n'y est évidemment pour rien, Valentin Gore.
Oui, vous avez tout dit. Alors c'est vrai que c'était le sens de son message d'adieu, hein, lorsqu'il nous a fait... Ça paraît très loin, mais c'était quand même il n'y a pas si longtemps, c'était à la rentrée dernière, tout ce numéro sur la dette qui a abouti à son départ du gouvernement. Alors c'est une alerte, alors c'est l'énième livre où François Bayrou alerte, il l'a déjà fait beaucoup dans sa carrière sur ce sujet de la dette. On a l'impression que c'est le retour, l'éternel retour. Évidemment, c'est le problème de François Bayrou, c'est qu'il a parfois posé les bons diagnostics, et encore pas sur tous les sujets, mais sur quelques-uns, en effet, sur la dette, sur l'éducation aussi. Il a même parfois eu des propos intéressants et même intelligents, mais ce qui en ressort à la fin de cette vie politique, puisque quand même on est dans la dernière partie, je ne suis pas sûr qu'il puisse briguer un jour un nouveau mandat, quel qu'il soit. On voit quand même une forme d'impuissance, puisqu'il n'a pas réussi à influer sur le cours du destin. Et j'étais amusé de voir hier Ségolène Royal dans le podcast Légende dire que François Bayrou avait refusé en 2007 d'être son premier ministre parce qu'elle était une femme. Ça m'a beaucoup fait rire, mais bon.
L'anecdote, vous voyez la face cachée des grands hommes,
le diable.
Étienne Darjac, qu'est-ce que ça vous inspire, ce retour?
Ça m'inspire...
Peut-être un candidat avec son présidentiel, lui aussi.
Il a dit que non.
À vrai dire, ça m'inspire pas tellement. Et je crois que ça n'inspire pas grand monde, en réalité.
Ça vous inspire, chers auditeurs? Répondez-nous à courtoisie@rc.fr ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Étienne, je vous en prie.
Donc j'ai compris que François Bayrou voulait sonner l'alarme. Ça, donc,
le toxin.
Donc je ne sais pas s'il va en faire un livre ou pas, je n'ai pas très bien suivi.
Ça
s'appelle l'alarme.
Il sort le 18 juin.
D'accord. Eh ben, il faudrait le sous-titrer François Bayrou, seule l'alarme sur les 50 ans de sa carrière politique. c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette excellente
pas
loi.
Finalement,
il ne fait pas partie du problème, il incarne le problème. C'est François Bayrou.
Faites un délit de faciès, là, ou pas?
Non, je fais un délit de carrière. Ça fait 50 ans qu'il est là, ça fait 50 ans qu'il occupe un poids quand même relativement important dans la vie politique. C'est exaspérant, en fait. Quelque part, alors bon, il est vieux. Il s'est fait sortir de Matignon de façon un peu brutale, il s'est fait sortir de sa mairie de Pau de façon un peu brutale.
Alors que c'est un peu auto-sorti de Matignon en emportant
Pau, c'est moins sûr. Matignon, oui.
C'est moins sûr.
En emportant Bruno Retailleau avec lui d'ailleurs, mais dans sa chute.
Mais c'est double mal.
Votre parole vous appartient, Étienne, comme d'habitude.
Donc non, mais tout ça pour dire que il rejoue et le disque macroniste auquel on a le droit depuis à peu près une petite année et auquel on aura le droit jusqu'à la présidentielle, qui est le disque du macroniste qui est là depuis 15 ans et qui vous explique, dans le but de la présidentielle, ce qui ne va pas depuis 15 ans et ce qu'il aurait fait s'il avait été là.
Ouais.
Et tu étais là. Tu étais là, vraiment, donc qu'est-ce qui t'arrive? Ça m'échappe complètement.
Mais ça, alors on va pas trop parler de l'affaire Liana, parce qu'on l'évoquera avec Gilbert Collard, mais au moins sur cet aspect-là, c'est assez vrai. Moi, j'ai entendu Gabriel Attal dire qu'il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, il faudrait refondre totalement la justice.
Gabriel Attal qui exerce des responsabilités gouvernementales depuis 2014.
Oui, c'est ça.
Il
était conseiller de Marisol Touraine au ministère de la Santé.
Imaginez.
Vous vous rendez compte, il est déjà si vieux, Gabriel Attal. On parle de Bruno Retailleau qui sort un petit peu du chapeau. Alors, c'est pas une mesure qui est très étonnante vis-à-vis de lui, parce qu'il veut incarner, on va dire, une forme de rigueur, on va dire, dans l'application de la justice, qui a parlé de la castration chimique automatique pour les violeurs et surtout les violeurs d'enfants. On a l'impression que tout le monde, c'est un peu le concours Lépine en quelque sorte, mais en faisant oublier qu'effectivement, sans paraphraser Étienne Darjac, on parle de gens qui sont quand même au pouvoir depuis plusieurs mois. Oui, mais je le dirais mieux que vous. Et on rigole pas, mais le sujet est très grave. Mais de fait, on est sur, encore une fois, un concours Lépine de gens qui ont été aux manœuvres pendant des années.
Qui ont été aux manœuvres pendant des années et qui n'ont pas su résoudre de problème. Vous l'avez dit, avec la droite en particulier, c'est assez frappant, parce que la gauche, là aussi, comme sur d'autres sujets, comme la culture, s'est emparée du sujet, quand elle en a eu l'occasion avec Robert Badinter, par exemple. La droite n'a jamais, s'est jamais vraiment passionnée pour ces sujets de justice. Le ministère de la Justice, souvent, on le donnait à un centriste, bon teint, c'était un joli cadeau, et puis c'est un ministère à propos duquel, vraiment, la droite l'a laissé tranquille, parce qu'on se dit, comme les magistrats sont de gauche, alors on va les laisser un petit peu ergoter dans leur coin. Seul Nicolas Sarkozy a un peu essayé en 2007, mal lui en a pris, c'est moins qu'on puisse dire.
Peut-être qu'il paye ça encore aujourd'hui.
Oui, en partie, oui, bien sûr, en partie. Mais c'est vrai que la justice, c'est vraiment l'un des grands chantiers qu'il faudra ouvrir pendant le prochain mandat, si c'est possible. Parce qu'on voit aussi que Gérald Darmanin, qui prétend faire des choses, qui prétend voir bouger les choses, en fait, n'y arrive pas du tout. Puisque quand il peut, parfois, prendre une décision qui peut relever du bon sens, on voit qu'elle n'est absolument pas écoutée sur le terrain, qu'elle n'est pas appliquée. Ça aussi, ça dit quelque chose. C'est-à-dire, quand le ministre dit « je vais appuyer sur tel bouton », on voit qu'à l'arrivée, le bouton marche pas et qu'il débouche sur rien.
Et qu'on s'aperçoit qu'en même temps, il publiait des circulaires demandant aux magistrats d'accélérer les libérations de détenus.
Bien sûr.
Dont font partie les pédophiles. Enfin, c'est Étienne Darjac. De Gérald Darmanin,
avec plaisir. Non, Valentin a tout à fait raison de dire que la droite s'est tout à fait désintéressée. Il y a un parallèle intéressant à faire avec la culture. C'est un peu les deux grands impensés de la droite, on va dire la droite gouvernementale.
Oui, bien sûr.
L'éducation nationale, et vous avez
que je mets dans le combat culturel, on va dire. Il y a une espèce de... Mais c'est très symptomatique de la droite post-gaulliste. Ou de la droite, j'allais dire plutôt même post-mai 68, en fait. De la droite pompidolienne, giscardienne, qui sent bien, bon an, mal an, que la société évolue et qui a en fait pas tellement envie de se confronter à ces changements-là et qui dit bon, allez, jouez dans votre coin, nous, on fait les trucs sérieux. Bon, bah, ce comportement-là, qui a pu être porté par ailleurs par des gens de bonne foi hein, ou des gens intelligents, alors ça remonte un peu. A conduit la France et la droite et plus généralement la France dans l'impasse où elle est aujourd'hui. La droite commence depuis sans doute une dizaine d'années à reprendre le combat culturel. Je crois qu'elle le fait bien. Alors, pas toujours bien, évidemment, pas parfaitement, mais qu'elle le fait en tout cas avec de la bonne volonté, des moyens, c'est surtout ça la nouveauté. Et commence à régner du terrain. Bon, bah, la justice, on part vraiment de zéro là. Et on part sur quelque chose qui sera un Everest beaucoup plus important à grimper, parce que la culture, si vous voulez, c'est un peu le domaine réservé, prestigieux de la gauche, mais il n'y a pas tellement de garde-fous dans la culture. On peut faire un peu ce qu'on veut quand on se donne les moyens. La justice, bon, c'est quand on veut s'attaquer à la justice, faut taper très profond.
Ça peut remonter presque au fondement de la Constitution.
Exactement.
Enfin, effectivement, ça nous emmène très loin.
Au syndicat de la magistrature, évidemment, mais au Conseil d'État, au Conseil constitutionnel, à la Cour européenne des droits de l'homme, à toutes les associations. Bon, tous ces jalons-là n'existent pas dans le monde culturel. L'ARCOM, si vous voulez, quoi.
D'un auditeur, la France est désormais incapable de produire autre chose que des Bayrou, Retailleau et consorts. Et j'ai presque envie de dire, cet auditeur a assez raison.
Je ne partage pas ce pessimisme.
Sans aller dans une forme de pessimisme, mais on critique beaucoup les hommes politiques en disant, les femmes politiques en disant qu'ils sont nuls, qu'ils sont incompétents, qu'ils sont ceci, qu'ils sont cela, mais en réalité, on peut aussi penser que la classe politique n'est que le miroir de notre époque et que dans le fond, on a les hommes et les femmes politiques. Je vais arrêter d'ailleurs avec les hommes et les femmes. Oula, je sais pas pourquoi je suis inclusif. On va arrêter avec les hommes politiques.
Vous irez très mal.
On va arrêter avec les hommes politiques. On a les hommes politiques qu'on mérite et après tout, tous ces hommes politiques ont été à un moment donné élus, en tout cas, ont été désignés par les Français pour les représenter. Donc quelque part, c'est un peu facile comme critique de dire c'est les hommes politiques qui font n'importe quoi. Valentin Gore.
Oui, vous avez en partie raison, bien sûr, on peut pas seulement rejeter la faute sur les hommes politiques. Si. Ce qui est certain, même s'ils sont quand même évidemment les premiers responsables, vous avez raison. Mais c'est vrai qu'il y a aussi, voilà, le ministre ne décide pas de tout seul dans son bureau. Ça aussi, c'est un peu une tendance française de penser qu'il suffit d'envoyer quelqu'un dans telle fonction et que tout va se régler magiquement. Ce qui est certain, c'est que la France aurait besoin aujourd'hui de quelqu'un comme Michel Debré, qui lui a su réformer très profondément la France, et notamment la justice, dont il a été ministre en 1958, avant de devenir ensuite le premier Premier ministre de Gaulle, et où, alors là, ça a été un chambardement inouï, où il a absolument, dans une situation déjà très poussiéreuse, où le ministère était à volo pendant la 4ème République, il a réussi à redresser tout ça. Mais c'est vrai que vous avez raison, on ne voit pas qui, aujourd'hui, pourrait le faire.
On va aller, il nous reste 6 ou 7 minutes avant d'accueillir Gilbert Collard, on va aller du côté de Belfast, en Irlande du Nord, puisque l'actualité européenne s'embrase autour de la partie loyaliste de la péninsule irlandaise. En effet, un homme, un migrant d'origine alors soudanaise, s'en est pris un autochtone, et on l'a vu à califourchon sur cet homme, lui ayant crevé les yeux, l'ayant battu, poignardé, commencé à égorger, il a tenté de le décapiter en place publique, enfin un scénario un petit peu à la Samuel Paty. Énorme révolte populaire, on nous parle d'émeutes, de lynchages, de vengeance, d'immeubles en flammes, etc. Question très simple, que se passe-t-il à Belfast, Étienne Darjac?
Alors, que se passe-t-il à Belfast, le sujet est un peu complexe. Je fais juste une toute petite incise parce que ça me paraît important. Vous avez dit, cher Marc, similaire à Samuel Paty, je crois que c'est pas du tout le cas, et je crois que c'est précisément ça qui est important. Dans l'affaire de Samuel Paty, il y a une cause, quoi qu'on en pense, évidemment, je ne justifie pas ce qui s'est passé. Il y a une cause qui est...
Il y a un élément déclencheur,
il y a un contexte qui est le djihadisme, on arrive à la décapitation de Samuel Paty. Mais si vous voulez, il y a tout un phénomène qui explique... Exactement. Dans le cas de ce qui s'est passé à Belfast, ça n'a rien à voir. C'est un pur acte de sauvagerie, il faut dire ce terme-là, de pure sauvagerie. Complètement gratuit. Par ailleurs, la victime, c'est un homme d'une soixantaine d'années, qui est en surpoids, qui est handicapé. Alors qu'il le sera encore plus désormais, malheureusement.
Dont la vie est encore en danger.
Donc, si oui, on est sur un monde complètement différent. Non pas que Samuel Paty soit moins grave, loin s'en faut. Mais là, si vous voulez, on est sur un acte de barbarie particulièrement gratuit, en pleine rue, sans aucun mobile. Et c'est ça qui choque, qui révolte les Irlandais et les habitants de Belfast. C'est cette espèce de déchaînement de violence qui malheureusement n'est pas nouveau et qui intervient, on en a parlé sur cette antenne quelques semaines après l'affaire Henri Novak, qui lui-même s'était fait poignarder gratuitement par un membre de la communauté sikh. Donc si vous voulez, il y a en Angleterre, un peu comme en France d'ailleurs, même si ça s'est un peu calmé ces derniers temps, une répétition assez régulière de faits divers de ce type-là, où des membres de la population de souche se font, j'allais dire, au mieux poignardé, au pire massacré par des populations immigrées pour des motifs la plupart du temps futiles.
Donc il y a une surreprésentation.
Très large. Et la différence fondamentale, et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer, j'imagine, c'est qu'il y a, chez le peuple britannique, en général, parce qu'il y avait déjà eu des émeutes assez similaires il y a un ou deux ans, qui avaient été assez violentes aussi, il y a cette faculté de mobilisation et c'est un peu cette explosion de colère qui n'existe pas du tout en France, qu'on voit pas du tout, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu émerger, et qui a l'air d'être une exception culturelle anglaise qui est assez étonnante.
Alors vous mettez Irlande du Nord et Britannique dans... Attends, ferez attention,
oui, quand même, si on c'est le même pays.
Oui, c'est exactement le même pays, on est bien d'accord.
Je suis un unioniste.
Certains Irlandais sont assez tatillons sur ces questions-là.
Mais
normalement, vous avez raison, le sujet est grave. Alors on a vu effectivement que dans les îles britanniques... c'est la même chose que dans les îles britanniques, effectivement, ce sujet était assez explosif. On voit le traitement médiatique qui a été fait de ces affaires-là d'ailleurs. Moi je lis les médias français. Alors il y a des émeutes, certes, mais personne, aucun journaliste pour expliquer, rappeler tout simplement la raison en réalité de ces flambées de violence. Valentin Gore, on assiste encore à une guerre de récits qui est désormais systématique dans ce genre de faits de société qu'on peut même plus appeler des faits divers.
Non, moi je rejoins tout à fait ce que vous avez dit, Étienne, sur le Royaume-Uni, mais ça vaut aussi d'ailleurs pour la République d'Irlande, qui n'est pas du tout le même peuple, effectivement, mais où il y avait eu aussi à Dublin des manifestations un peu du même genre.
Absolument.
Alors c'est peut-être aussi le phénomène tout simplement des îles. On sait que par exemple le Japon, c'est une banalité de dire ça, mais les peuples qui vivent sur des îles sont toujours un peu plus jaloux de leur identité aussi. Mais c'est vrai qu'il y a une réaction britannique et variété irlandaise qui est surprenante, qui, à mon avis, vient vraiment du tréfonds de ces peuples. Et moi, je n'ai pas la réponse. Est-ce que c'est dans leur culture, la vieille, j'allais dire presque une forme de celtitude qui remonte à la surface? Je pense que c'est quelque chose de très étonnant et un phénomène, en tout cas, qui mériterait presque un livre, parce que c'est vrai, vous avez raison, il n'a pas d'équivalent comme disent les Anglais, sur le continent.
Et surtout, effectivement, qu'on soit unioniste, loyaliste, etc., tout cela importe peu face à cette réalité-là.
Ah oui. Oui, d'ailleurs, on a eu des images qui sont quand même... qui nous touchent pas énormément, mais qui sont absolument folles dans le contexte irlandais. On a des images de... Je sais pas si vous avez vu cette vidéo qui a tourné sur Twitter, de quartiers catholiques et de quartiers protestants se rejoignant pour mener un seul cortège. Contre l'immigration, en l'occurrence, c'est des scènes complètement folles. Je pense que peut-être un début d'explication sur cette explosion de violence, c'est peut-être que justement ce territoire irlandais a été très fortement marqué par la violence, par une violence extrêmement forte.
Hein, jusqu'à très peu de temps.
On parle d'attentats, de guerre de rue à l'arme d'assaut, et jusque dans les années 90.
Absolument.
Donc en fait, quelque part, beaucoup des anciens combattants de l'IRA ou des anciens combattants unionistes par ailleurs sont toujours en vie, sont toujours très actifs. Donc peut-être qu'il y a un début d'explication dans cette habitude à la violence irlandaise que nous en France on n'a plus du tout depuis la Seconde Guerre mondiale en fait.
On va quitter l'Irlande du Nord, messieurs, et revenir dans le Gers, puisqu'on va parler de l'affaire Liana, une affaire qui débute le 29 mai avec la disparition d'une collégienne de 11 ans à Fleurance, donc dans le département du Gers, un homme de 41 ans déjà visé par plusieurs signalements et plaintes dans le passé, mais ça on ne l'apprendra qu'après, et rapidement mis en examen pour enlèvement et séquestration. Le corps de l'enfant est retrouvé le 4 juin et identifié le lendemain. Derrière ce drame abominable, derrière cet acte d'une abjecte cruauté, une autre question domine le débat public. Les institutions ont-elles failli à leur mission de protection de l'enfance? Pour répondre à cette première question et à toutes les autres, j'accueille l'ancien député, puis eurodéputé du Front National devenu Rassemblement National, qui fut également président d'honneur de Reconquête, l'avocat Gilbert Collard. Maître Collard, bonsoir.
Oui, bonsoir. Bonsoir.
Alors, cette affaire, évidemment, a ému la France entière, comme celle de la petite Lola et comme d'autres. On va s'en revenir sur le fond de l'affaire, qui est d'une tristesse abyssale. Le débat qui arrive sur la table très vite, Gilbert Collard, c'est comment en est-on arrivé là? Alors, on entend, c'est la faute à l'engorgement des tribunaux, c'est la faute aux décisions politiques, c'est la faute... Enfin, on voit la magistrature et la classe politique se renvoyer la responsabilité. Gilbert Collard, vous, quel est votre sentiment devant cette affaire terrible?
C'est la faute à ceux qui n'ont pas fait leur boulot. Alors on essaye de cacher ces négligences individuelles qui malheureusement se répètent de plus en plus sous un fatras de corporatisme, de discussion. Mais enfin, si on prend les faits en professionnel, en habitué des procédures, on a quand même un individu qui est signalé. On a en 2025 une plainte qui est circonstanciée par des éléments d'ordre médico-légal. On a donc un signalement sur la dangerosité, comme on dit, qui est indiscutable. Et rien n'est fait. Il n'y a pas de garde à vue. Il n'y a pas de mesure de nature à intimider au moins l'individu. Il n'y a pas de consultation des fichiers. Je rappelle qu'on a quand même trois fichiers. Un sur les antécédents judiciaires qui concerne précisément tous les faits sans qu'il y ait de condamnation. Et il aurait suffi de cliquer sur un bouton pour lire la notice concernant Jérôme Barella. Il y a pour les magistrats et le parquet, il y a accès le fichier Cassiopée, et puis il y a un autre fichier au nom très compliqué qui comporte toutes les condamnations et que les juges consultent, ainsi que les parquets. Bon, ça n'a pas été fait, vous comprenez. Donc, il est d'une évidence que le travail n'a pas été fait, qui nous renvoie à cette espèce de négligence, d'indolence. Alors, peut-être que le parquet d'Auch donnait la priorité aux mises en garde à vue des agriculteurs. On a un agriculteur qui explique qu'il a été entendu 30 fois de suite.
C'est effectivement une des questions, Gilbert Collard, qui se pose. Oui, c'est la priorisation. Et quand on entend parler d'engorgement des tribunaux et de manque de moyens, il y a aussi des choix qui ont été faits.
Quand vous voyez moi j'ai des exemples nombreux d'audition de personnes pour des faits dérisoires, ridicules, enfin bon, une personne qui témoignait tout à l'heure là sur un espace qu'on avait, qui a été entendue 3 heures pour harcèlement parce qu'elle est conseillère municipale et elle pose des questions à la mairie, bon, des auditions inutiles, vraiment là. Le temps perdu, souvent, parce que des personnes un peu connues demandent que la plainte soit prise en considération. Puis à côté de ça, on néglige des affaires dramatiques.
Non, mais l'affaire Bruel, on voit 4 juges nommés juste pour cette affaire.
4 juges nommés, ouais. Alors quand même, on se fout du monde. Un juge suffirait grandement, mais grandement. Moi, vous comprenez, c'est la tour de Babel du blabla, ce pays, voilà. On ne fait rien, on ne bouge pas. Il faut qu'il y ait une morte, il faut qu'il y ait un drame pour qu'on danse autour de la tour de Babel du blabla. Quand vous pensez que le premier ministre, M. Lecornu, a dit, je sais pas, il ne s'est même pas rendu compte de la gravité de son propos, il a dit, oui, toutes les mesures que nous allons prendre, que je propose et que nous allons voter, n'auraient pas évité le drame.
L'inaction, absolument.
Vous vous rendez compte,
oui. Mais d'autant qu'on a tout dans la loi, enfin, ce qui est si amusant, c'est qu'on a tout dans la loi pour empêcher M. Barella de passer à l'acte, en fait.
Tout, on a les fichiers, on a les éléments d'information, on a tout, mais vous comprenez, il faudrait... Le général de gendarmerie qui dirige la gendarmerie, avec beaucoup de dignité, a eu l'honnêteté de reconnaître que le corps avait fauté. Bon, ouais. C'est pas le corps, c'est une brigade. C'est une brigade.
Il y a quand même une prise de responsabilité, quoi.
Bon, il reconnaît, la conférence des procureurs se défausse. La conférence des procureurs généraux se défausse. Le Conseil supérieur de la magistrature ose parler d'instrumentalisation. Non, ça va. Comme si parler du malheur, parler de la peur, parler de l'insécurité, parler de l'horreur de voir une enfant assassinée était une instrumentalisation. Enfin, quand même, on oublie que Voltaire a commencé sa campagne contre l'injustice en disant « Criez !» et qu'on crie. Et on entend le président de la République dire « Il ne faut pas crier. » Mais qu'est-ce qu'il faut pas crier ? Il faut hurler.
Ouais.
Il faut hurler.
Valentin Gore, vous avez une question pour Gilbert Collard.
Oui, bonsoir maître. Une question en effet sur ce que vous disiez un petit peu, la responsabilité collective qu'on a, que les politiques, la machine française, je dirais au-delà de ça, a toujours envie de ressortir dans ces cas-là pour éviter justement de pointer des défaillances individuelles. Est-ce que ça n'est pas aussi l'un des problèmes qui fait que rien n'est jamais réglé, puisque finalement la France est quand même un pays qui peine beaucoup à désigner des responsables ou éventuellement des coupables quand il y a ce genre de manquement, surtout dans la magistrature.
D'abord, on est un pays où les magistrats ne sont pas civilement responsables. C'est incroyable, mais c'est vrai, un architecte commet une faute, il en répond civilement. Un journaliste dit une bêtise, il en répond civilement. Un avocat oublie de signer des conclusions, le juge le condamne. Bon, moi j'avais demandé... qu'on crée une responsabilité des magistrats. Alors ma proposition, elle était inattaquable, parce que je voulais qu'on transpose le corpus de la jurisprudence que les magistrats ont élaboré sur les avocats, qu'on le transporte chez les magistrats. Donc, ils sont eux-mêmes les auteurs de ces jurisprudences. Ils ne peuvent pas dire qu'elles sont mauvaises. Bon.
Ouais.
Et qu'on les soumette au même régime que les avocats. Un avocat qui oublie de signer des conclusions, bah, il est condamné à payer une prime. Si on laisse passer un délai, on est responsable. Le juge, ça doit être pareil. Non, c'est l'État qui paye.
Ouais.
C'est le contribuable. Quand un juge commet une faute civile, c'est le contribuable. Maintenant, quand il commet une faute déontologique, regardez le vice-procureur de Bobigny, impliqué dans une affaire d'usage de drogue.
Ouais.
Dans le cadre de soirée chemsex. Il n'est pas révoqué, il est déplacé. Quand même, Quand même.
Il y a eu un magistrat aussi qui s'était fait prendre la main dans le sac en train de proposer sa fille de 12 ans à Dijon et qui a été condamné à une peine avec sursis absolument dérisoire.
Un an de prison avec sursis et 1 000 euros d'amende. Bon, vous comprenez. Voilà, bon. Tant qu'on ne mettra pas un terme à ce corporatisme, il faut complètement réformer le Conseil supérieur de la magistrature. Il faut le réformer complètement. Il faut refuser toute implication syndicale dans le Conseil supérieur de la magistrature. Vous comprenez, quand vous êtes syndiqué et que vous jugez un de vos syndiqués, ça fait quand même un peu conflit d'intérêts, non ?
Ouais. Alors justement, Gilbert Collard, vous qui êtes avocat, qui avez une longue carrière d'avocat, qui avez aussi connu, qui avez une carrière politique, donc qui connaissait un petit peu ces deux aspects, est-ce que il est possible aujourd'hui pour quelqu'un de la classe politique de s'attaquer justement, parce que le terme n'est pas trop fort, à la magistrature ? On sent que la classe politique, dans son immense majorité, a peur en réalité face à cette magistrature, parce qu'elle est toute puissante, qu'elle ne rendait compte à personne, et ce sera un coup, certains nous le disent ce sera un coup à se retrouver avec des procédures improbables derrière nous, alors qu'on n'avait rien potentiellement à se reprocher. Est-ce qu'il y a justement, la magistrature ne fait pas rien, un climat de terreur au sein de la classe politique, Gilbert Collard ?
Ouais, il y a la trouille, je l'ai vu, il y a la trouille. Il y a la trouille, un procureur peut déclencher une enquête sur n'importe quel prétexte, n'importe quel prétexte, bon.
Oui, et en politique, la moindre enquête est synonyme de condamnation.
La moindre enquête et vous pourrir la vie pendant des années, quoi. C'est clair, moi, il y a des hommes politiques qui me l'ont dit, qu'ils avaient peur, ils n'avaient rien à se reprocher, mais un oubli, une broutille, n'importe quoi. Vous n'avez pas d'extincteur dans votre permanence, par exemple. Ça peut provoquer, ça peut provoquer une enquête. Tout peut être prétexte à déclencher les enquêtes aujourd'hui, tout.
Étienne Darjac, vous avez une question pour Gilbert Collard, il nous reste 2 minutes.
Oui, Gilbert Collard, alors bon, en 2 minutes, je ne sais pas si c'est faisable, mais vous qui connaissez très bien le système judiciaire, quand on parle de ces sujets dans les sphères de droite, on entend parfois l'idée de rendre les juges éligibles, comme ça se fait par exemple aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne solution et que c'est applicable en France ?
Alors attention, bon, moi je serais pour l'éligibilité des juges, mais à condition qu'on ait un corps d'éligibles très choisi, ayant forcément des diplômes juridiques, ayant forcément une ancienneté dans la pratique du droit, ayant forcément une expérience juridique, avec impossibilité de réitération de la fonction, avec des garanties vraiment mais draconiennes sur l'irréprochabilité. Bon, par exemple, quand on parlait autrefois de l'élection des juges, je disais, vous rendez compte, on pourrait avoir un Bernard Tapie, président de la Cour de cassation. Bon, c'est impuissant,
pourquoi pas.
C'est assez simple.
On l'a bien eu ministre, Gilbert Collard, après tout.
On l'a bien des ministres, vous avez raison. Mais ça pourrait être une solution, l'élection. Mais sous des conditions d'avoir un collège électoral très trié, très. Par exemple, si on doit, on pourrait prendre des avocats, mais à condition qu'ils aient derrière eux une carrière non seulement honorable, mais qui démontre que le cabinet fonctionnait. Vous comprenez ? Parce qu'à l'heure actuelle, la plupart des avocats qui deviennent magistrats, c'est parce qu'ils ont raté leur carrière d'avocat. Ils ont raté leur carrière d'avocat. Alors
5 secondes.
Ils vont se réfugier dans la magistrature. Voilà. C'est pas vrai pour tous les cas, mais c'est souvent vrai, malheureusement.
Ouais. Merci Gilbert Collard d'avoir été avec nous pour évoquer cette terrible affaire Liana. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Merci Étienne Darjac et Valentin Gore d'avoir été avec moi. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour le prochain Restons Courtois. Retrouvez demain le Restons Courtois du vendredi animé par Marc Baudrier et Boulevard Voltaire. À très bientôt.
Ça suffit maintenant.